qui est positif, c'est-à-dire qui va constituer pour les individus, en l'occurrence à l'intérieur de la communauté scolaire, une condition nécessaire pour qu'ils aient ensemble des relations, je dirais, harmonieuses. Alors, il y a par exemple ces formules suivantes. Cette loi a pour fin, et le principe de laïcité en général, a pour fin, je cite, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité entre les élèves, de promouvoir une fraternité ouverte à tous. Bon. Mais là encore, vous voyez, ce qui est tout à fait caractéristique, ce sont de très très belles formules, hein. Elles sont hélas très peu connues. Donc il s'agissait de faire en sorte que les professeurs et les élèves puissent les avoir à leur disposition et puissent en faire le support d'un travail ensemble. C'est le but des documents de travail que je suis en train de constituer, c'est-à-dire que je rappelle ce type de phrase, hein, je rappelle ce type de phrase et je montre de façon très concrète de quelle façon les expressions en question peuvent être explicitées, décortiquées, mises à la portée de publics de différents âges, hein, évidemment, sur ces questions, on ne s'adresse pas de la même façon à une classe de 6e et en cours de philosophie à une classe de terminale. Et donc j'ai essayé de faire ce travail, non seulement, ce n'était qu'un exemple, hein, ce que je vous donnais, j'ai essayé de faire ce travail non seulement avec cette fameuse loi du 15 mars 2004 autour de laquelle beaucoup de choses s'étaient cristallisées, mais autour aussi de toute la littérature réglementaire sur la laïcité à l'école, hein, parce que nous avons un véritable trésor de textes. Quand je dis un trésor de textes, c'est-à-dire nous avons au niveau quantitatif tout un ensemble de textes qui réglementent la laïcité à l'école, mais aussi, et donc pas seulement au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de textes dans lesquels la valeur de la laïcité, hein, la valeur de la laïcité est véritablement explicitée, mise en évidence, mais encore fallait-il aller le chercher, le rassembler dans un corpus cohérent et puis, encore une fois, le mettre à la disposition parce que des formules, eh bien, aussi nobles ou belles ou exaltantes soient-elles, ont besoin du travail de l'explicitation. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on m'a confié ce travail. Moi, je suis philosophe. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? Ben, c'est quelqu'un qui, sur un mot, par exemple, comme une expression comme « promouvoir une fraternité ouverte à tous », eh bien, est capable de problématiser, de conceptualiser, d'expliquer de quelle fraternité il s'agit, d'expliquer de façon à la fois logique et simple comment est-ce qu'on passe du principe de laïcité à l'idée de fraternité, parce que, bon, évidemment, on peut l'imposer comme tel. On peut dire, à quelqu'un, mais alors la laïcité, grâce à cette loi sur la laïcité ou grâce au principe de laïcité, l'école, c'est un lieu qui promeut la fraternité. Bon, si vous dites ça à un élève de cette façon-là, il ne va pas comprendre. C'est-à-dire que là, vous vous réfugiez derrière l'argument d'autorité. Donc ce que j'ai essayé de faire, à travers ces documents de travail qui paraîtront prochainement sur Eduscol, c'est de faire le chemin logique, si vous voulez, hein, le chemin d'explicitation logique entre différentes notions. Je vais vous donner un autre exemple de ce travail que je suis en train de faire pour vous montrer peut-être un petit peu mieux en quoi consiste cette explicitation. J'ai voulu, par exemple, montrer que il y a une laïcité de l'enceinte scolaire à partir d'une explicitation de ce qu'on appelle une enceinte scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette expression est tout à fait passée dans les usages. Hein. Tout le monde parle spontanément, commodément de l'enceinte scolaire. Bon. Mais il me semble que la notion n'est pas suffisamment comprise, n'est pas suffisamment réfléchie, ni par les uns ni par les autres, et qu'il faut la réfléchir davantage, c'est-à-dire méditer davantage sur sa signification en rapport avec la laïcité. Quel est ce rapport? S'il y a une laïcité de l'enceinte scolaire, ça veut dire que le champ scolaire, l'école, est un espace qui est neutralisé vis-à-vis de tout un ensemble de ce que j'appellerais de façon générale des publicités idéologiques, qui ne viennent pas seulement du religieux ou des religions en général. Hein. On fait attention à ce que dans l'espace scolaire, et c'est pour cela que c'est une enceinte, hein, pas une forteresse, hein, mais une enceinte, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on fait attention qu'à l'école ne pénètre pas tout un ensemble de publicités idéologiques, en l'occurrence les signes d'appartenance, les signes manifestes d'appartenance religieuse peuvent constituer une publicité idéologique, c'est-à-dire un acte qui peut être considéré comme du prosélytisme. S'agit-il de voir le mal partout? Non. C'est là qu'il s'agit de rappeler que nous parlons de l'école. C'est-à-dire que nous ne parlons pas quand nous parlons de l'enceinte scolaire, nous ne parlons pas de n'importe quel espace public. Nous parlons d'un espace public qui a une spécificité tout à fait caractéristique, qu'il s'agissait là encore d'expliciter, de rappeler si vous voulez, hein, d'exhumer pour qu'à nouveau elle fasse l'objet d'une conscience véritable, c'est un lieu dans lequel on éduque des enfants. Et ça c'est quelque chose qui est tout à fait important. Pourquoi est-ce qu'il y a enceinte, plus non, enceinte, hein, ne serait-ce qu'au niveau de l'imaginaire, il y a l'idée matricielle, si vous voulez. Hein, l'école est enceinte, littéralement. Bon. Elle est enceinte de l'humain. Hein. Bon. Ça y est, je parle comme Jean Jaurès. Mais bon, l'idée d'enceinte, appliquée à des enfants, qu'est-ce que ça signifie? Alors voilà, ça c'est. Je vous invite, là, vous faites avec moi typiquement le travail d'explicitation que je suis amené à faire. On va mettre les enfants. Il y a deux mots qui me servent beaucoup ici. Le premier mot, c'est le mot de protection, et le deuxième, c'est le mot de promotion. Je vais vous expliquer. Le premier mot, c'est le mot de protection. On établit un filtre, on ne permet pas à l'école, on demande au personnel de l'éducation nationale d'être laïque, hein, c'est-à-dire de respecter une attitude de neutralité, ou justement, comme le disait Jean Jaurès, on pourrait expliciter la distinction, une attitude d'impartialité. Hein. Les professeurs n'ont pas à manifester leur appartenance idéologique, ni politique, ni religieuse. Il s'agit de la protection de l'enfant et de l'adolescent. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à une identité qui n'est pas déjà constituée. Nous avons affaire à une identité qui est en construction. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et qui, en tant que telle, je dirais, a, sans pathologiser, hein, sans dramatiser, a une certaine fragilité. Elle a une malléabilité, elle a une influençabilité. Hein. Et donc, il s'agit d'établir autour d'elle, c'est-à-dire autour de la personnalité de l'enfant en voie de constitution, eh bien, quelque chose qui, sans être une forteresse, néanmoins, va le mettre dans une situation qui est unique dans le champ social, une situation qui est une situation de mise à l'abri, de mise en sécurité par rapport à tout un ensemble de discours qui, ailleurs dans le champ social, surtout aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de l'actualité de la laïcité, aujourd'hui nous vivons dans un contexte général de société où l'espace public est livré, ça c'est vraiment le libéralisme sous sa forme la plus sauvage et la plus permanente, est livré à une multitude continuelle de publicités idéologiques. Dès que nous sortons dans la rue, dès que nous allons dans la télévision, on est bombardé par la publicité idéologique. C'est-à-dire on est sollicité par des modes, on est sollicité par des désirs, on est sollicité par des actes de consommation, on est sollicité, etc., etc. Bon. Eh bien, il ne s'agit pas de faire de l'enfant un autiste, simplement de lui offrir ce luxe nécessaire d'avoir dans la société un espace où il peut respirer par rapport à cette publicité idéologique. Parce que, eh bien, il a besoin à un moment, si vous voulez, simplement de récupérer, de respirer par rapport à ça. Et de se retrouver face à une information qui est une information qui a un certain degré d'objectivité. L'information ou la connaissance qui lui est transmise par le professeur. Je dis un certain degré d'objectivité parce que je ne fantasme pas la notion d'objectivité. Hein, le filtre est un filtre qui ne fait que filtrer. Hein, c'est-à-dire que évidemment il y a un certain nombre de choses qui passent, mais là quand même on fait attention à ce qu'on dit à l'enfant. Donc il y a cette notion de protection. Et il y a, là aussi je l'explicite comme tel, il y a dans cette enceinte la notion de promotion. Tout à l'heure, Henri Pénarus employait une formule qui est générale et qui est excellente. Il parlait de la laïcité comme un principe d'émancipation. Là aussi, hein, dans mon travail, c'est quelque chose de tout à fait indispensable, justement pour montrer le caractère fécond, le caractère positif de la laïcité, c'est-à-dire la laïcité en tant que valeur. La laïcité est un principe d'émancipation. Ce n'est pas d'abord quelque chose qui interdit. Ou s'il y a interdiction, l'interdiction est un moyen pour une fin. Et cette fin, c'est l'émancipation. Hein, donc, ce sont des choses qui méritent d'être rappelées. De quoi s'agit-il, en l'occurrence, pour l'école? En quoi est-ce qu'il y a promotion ou émancipation? Les deux termes sont à mettre en rapport très vite. Il y a promotion au sens où, à l'école, on a une tâche, hein, une fonction première, qui est, c'est peut-être le philosophe qui parle là encore, mais de donner à l'enfant un certain nombre d'instruments intellectuels et d'instruments culturels qui vont lui permettre de former sa propre personnalité, c'est-à-dire d'entrer dans un processus qui est un processus, on appelle ça comme ça depuis Cicéron, de cultura animi, culture de l'âme, de culture de soi. Bon. Il faut qu'il se mette en culture. La culture, c'est pas ce qu'on sait, la culture, c'est ce qu'on devient. Hein, c'est pour ça qu'il y a une métaphore agricole. La culture, on fait pousser quelque chose. Bon, voilà, on fait pousser une personnalité d'être humain. Bon, avec les limites inhérentes à tel ou tel système de civilisation. Hein. On ne fait jamais pousser que des êtres de civilisation, etc. Et n'empêche qu'on essaie de fabriquer de l'humain. Bon, voilà ce qui doit être promu. Voilà ce qui demande à être promu. Et pour ça, eh bien, encore une fois, il s'agit de mettre l'enfant dans un contexte tout à fait particulier. Et la laïcité, ça sert à ça. La laïcité, ça sert à ça, c'est-à-dire que si on laissait entrer à l'école n'importe quelle manifestation d'appartenance déjà constituée, d'identité déjà constituée, on serait en contradiction avec cette vocation de l'école. C'est-à-dire, si à l'école, je prends la question religieuse, parce qu'aujourd'hui c'est la plus sensible et la plus simple, si on laisse à l'école entrer le petit enfant en tant que musulman, en tant que juif, en tant que chrétien, on est en contradiction avec cette vocation que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que l'école, par nécessité noble, hein, c'est pas du tout une contrainte, par nécessité noble, est obligée de considérer l'enfant comme ayant une virginité morale, une virginité spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement très important. Donc, à partir de là, vous voyez, on met les choses en contexte et on explique que, là aussi, je le fais d'ailleurs dans mon travail, on pourrait dire les choses à travers des formules qui sont devenues très classiques. Mais je crois qu'on n'a pas assez à notre disposition. Alors, je vous les donne. La première, qui est très simple, c'est l'idée que un individu, un être humain, quel qu'il soit, c'est la question du rapport entre identité collective et identité personnelle. Ben, un être humain, quel qu'il soit, il n'a pas seulement des appartenances à une communauté, à une culture, etc. Il doit se soucier, pour devenir humain à part entière, de se soucier aussi d'apprendre à s'appartenir à lui-même. Appartenir à et s'appartenir. Et justement, le fait de demander à l'école, dans l'enceinte de l'école, à des appartenances collectives de rester à l'extérieur, eh bien, c'est justement libérer au sens d'ouvrir, ouvrir un espace pour que l'individu apprenne à devenir lui-même, c'est-à-dire trouve ou découvre peut-être même, parce qu'on n'a aucune garantie que ça lui soit appris à l'extérieur, qu'il découvre à la fois la possibilité et le sens de s'appartenir à lui-même. De s'appartenir à lui-même parce qu'il va entendre des choses, il est petit athée, il n'est pas athée en réalité, il a grandi dans une famille athée, il est petit garçon de gauche ou petit garçon de droite ou petit juif, petit ceci, petit cela. À l'école, on lui offre la possibilité de se déprendre de cette appartenance qui, quoi qu'en dise sa propre subjectivité, est une appartenance reçue, voire une appartenance subie, hein, parce que évidemment, quand vous avez des adolescents, ils vont tous protester de leur liberté. Non, mais j'ai choisi, moi. Hein. J'ai choisi, non, mes idées de gauche. Moi, combien de fois j'ai eu, quand j'étais professeur en terminale, de débats avec des gens qui étaient alors soit athées, soit croyants, soit de gauche, soit de droite. Mais non, monsieur, ça, ce sont mes propres idées, vraiment. Bon, c'est-à-dire que là, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on veut avoir une identité personnelle avant même d'avoir pris les moyens de la constituer, c'est-à-dire d'avoir fait le détour par la distance critique vis-à-vis de ce qu'on avait reçu au départ. C'est impossible, et c'est une contradiction. On ne peut pas lui dire comme ça, mais en tout cas, il faut l'amener à comprendre que, eh bien, il peut prendre une distance. Donc il y a cette question de appartenir et s'appartenir. Et la deuxième expression qui est classique et que je mobilise, c'est l'idée que il peut être intéressant, et encore une fois pour ça, il peut être intéressant d'avoir à sa disposition un espace public, et en l'occurrence c'est à l'école de remplir cette fonction dans notre société, il peut être intéressant d'avoir un espace dans lequel on va apprendre à se différencier de sa différence. Alors je dis ça à dessein en plus, hein, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où le maître mot, c'est le droit à la différence. Voilà, alors voilà, c'est le religieux qui revient par des portes où on ne l'attendait pas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez dit droit à la différence, vous avez l'impression qu'à partir de là, l'individu peut tout faire. Hein. On est dans une situation sociale et morale d'apologie indifférenciée de la différence. Vous voyez. Et je pense que, en tant que vieille civilisation, maintenant je parle comme ville de Villepin, en tant que vieille civilisation, nous devrions quand même avoir un rapport qui n'est pas un rapport aussi naïf ou aussi unilatéral à la question de la différence. C'est-à-dire d'accord pour le droit à la différence, mais d'accord aussi pour une interrogation critique de chacun vis-à-vis de sa différence. C'est-à-dire que, en tant que... on a parlé à plusieurs reprises de... C'est, là encore, je reviens à ma considération du départ. Tout à l'heure, on parlait de la religion. Je ne sais plus qui parlait de la religion. Et disait que chacun, par rapport à sa religion, revendique une liberté de conscience. Mais c'est un discours comme ça, mais intellectuellement, c'est vraiment d'une médiocrité absolument affligeante. C'est-à-dire qu'il est évident que, en tant que la liberté de conscience sur le plan religieux est un droit fondamental. Mais la liberté pleinement assumée du croyant ou de l'athée, c'est non seulement d'être libre de sa croyance ou de son incroyance, mais libre aussi et capable, parce que libre ça veut dire capable, libre et capable de prendre une distance critique vis-à-vis de ce qu'il croit ou de ce qu'il ne croit pas. Ce qui est une façon de dire que l'individu doit se voir offrir un espace dans lequel il va pouvoir apprendre à se différencier de sa différence. Hein. Tout à l'heure, madame a fait a parlé de m'a présenté un petit peu. Bon, moi souvent on me présente comme philosophe. Moi je suis souvent philosophe de l'islam, philosophe musulman. Bon, pourquoi pas. Je me balade avec ma petite étiquette, philosophe musulman. Pourquoi pas. Mais si je suis philosophe, c'est parce que par rapport à ma culture musulmane, à un moment, j'ai pris une distance critique. Hein? C'est-à-dire, j'ai appris à me différencier de ma différence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que tout individu qui a un rapport à sa foi, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de médiocrité intellectuelle. C'est-à-dire, on fait comme si la foi, le fait d'avoir la foi, c'est quelque chose d'absolument évident. Il a la foi. Hop. Voilà. Il est libre. Et puis, il doit être libre. Voilà. Alors qu'en réalité, on le sait tous quand on lit les grands parcours spirituels, hein, qu'ils soient mystiques chrétiens, mystiques juifs, mystiques musulmans, ce sont des rapports extrêmement complexes que l'individu entretient, même souvent tourmentés que l'individu entretient à sa propre foi. Ben, de quoi est-ce que ces subjectivités éminentes sont le témoin ? Elles sont le témoin du fait que le rapport à une croyance ou à une incroyance, pour devenir riche, et je dirais pour devenir pleinement humain, il doit devenir complexe. Et pour devenir complexe, il faut lui avoir offert la chance d'avoir pris une distance par rapport à ses certitudes immédiates ou par rapport, je dirais, à une conviction spontanée, comme ça, que l'individu se contenterait de trimballer avec lui tout au long de son existence. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Parce que j'ai plus grand-chose à dire. Ce que je voulais rendre sensible, mais bon, si vous avez des questions, je préciserai, c'est justement la façon dont j'ai essayé de travailler. Je dis une dernière chose. Donc j'ai non seulement essayé d'expliciter un certain nombre, d'expliciter puis de problématiser un certain nombre de thématiques, vous voyez, et puis j'ai eu un souci aussi très concret d'appliquer ma réflexion à des situations précises. C'est-à-dire que, par exemple, je vais réfléchir dans un, je fais un certain nombre de documents de travail, je réfléchis dans un document de travail sur ce que j'appelle une pédagogie de la laïcité relative aux cours d'histoire-géographie. Parce qu'il me semble que l'enseignement d'histoire-géographie, à tous les niveaux, hein, je recense les différents programmes à partir de la 6e, se prête à un pas de côté, de telle façon que le professeur sache comment mobiliser la notion de laïcité, et de telle façon qu'à l'arrivée, je vais terminer là-dessus, de telle façon qu'à l'arrivée, la laïcité redevienne un bien commun dans ce creuset, hein, ce creuset du vivre ensemble qu'est l'école. Il y a une très belle formule de Jean-Louis Auduc, un grand spécialiste de ses travaux sur la laïcité à l'école. Jean-Louis Auduc souhaite que la communauté éducative tout entière redevienne une actrice de la laïcité. Hein, c'est-à-dire que ce soit peut-être là avant tout que le sens de la laïcité soit, dont on va s'assurer que le sens de la laïcité soit bien transmis et ne soit pas simplement répété comme une formule incantatoire. Hein, on ne va pas faire, ça serait un comble du religieux, c'est-à-dire du dogmatique, avec la laïcité. Je vous remercie.